matin.
Chaque matin.
Il suffit de demander vos conseils sur Radio Lac.
Bonjour Flora Ponsard.
Bonjour Safi.
Oh là là, mais j'ai l'impression qu'on va mettre les mains dans la farine et dans les sucres ce matin.
Exactement.
Alors justement, les différentes farines et les différents sucres, c'est vrai qu'il y a tellement de propositions sur le marché,
oui,
qu'on ne sait plus vraiment où on en est et le consommateur est un peu perdu.
Hein. Et un peu perdu, c'est ça. Et puis, il y a une raison, on va dire, aussi par rapport à la cuisine, en fait, pour pâtisser, etc. Mmh. Mais après, vraiment, qu'est-ce que ça signifie, surtout les T45, T55, tous ces petits chiffres, en fait, ça veut dire quoi?
Je vous pose la question.
Alors, justement, on est là pour ça. Le chiffre, en fait, après le T, il va indiquer le taux de cendre, c'est-à-dire la quantité de résidus en minéraux dans la farine.
Okay.
Et plus ce chiffre, il va être bas, plus la farine, elle va être raffinée.
D'accord.
Donc ça, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Plus le chiffre est bas, plus la farine est raffinée, et plus le chiffre est haut, plus la farine est complète. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on voit farine semi-complète, etc., ça va être un chiffre qui va être au milieu, par exemple le T65, le T80, et après on va même trouver du T110, T150. Donc là, c'est vraiment des farines qui sont intégrales, des farines très complètes.
Alors, T150, c'est plutôt bon.
Ouais, c'est plutôt bon. Après, ça va changer au niveau justement de la... je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire des gâteaux, par exemple, avec de la farine complète ou des crêpes, etc.
Jamais.
Ça n'a pas le même effet parce que la farine blanche, justement, elle est pauvre en fibres, etc. Et généralement, elle est plus utilisée pour les pâtisseries comme les gâteaux, les viennoiseries.
Okay.
Si on utilise de la farine complète, même un pain complet, il n'a pas la même texture qu'un pain, justement, à la farine blanche.
C'est vrai.
C'est vraiment ça la grosse différence. Et c'est surtout la quantité de fibres qui va changer parce que dans une farine qui va être complète, la quantité de fibres va être beaucoup plus importante et il va avoir aussi beaucoup plus de minéraux, beaucoup plus de vitamines, etc. Donc, du coup, d'un point de vue micronutritionnel, clairement, la farine semi-complète, complète sera beaucoup plus intéressante. Après, oui, pour faire du pain, c'est sûr que c'est plus compliqué de faire du pain avec de la farine qui est complète parce que justement, ça a tendance à beaucoup moins gonfler, etc.
Ouais.
Donc même pour commencer, vous pouvez faire moitié-moitié, par exemple. Ça permet d'avoir plus de fibres. Et du coup, d'avoir plus de fibres, ça permet aussi d'avoir un impact plus favorable sur sa flore intestinale.
Les alternatives à la farine de blé, Flora, c'est quoi?
Alors les alternatives, on va trouver par exemple de la farine de riz, la farine de pois chiches, la farine de manioc.
De quinoa aussi.
De quinoa. On trouve de la farine de tout maintenant.
Petite épeautre, épeautre.
Oui, petite épeautre,
épeautre. Ça rentre dans le blé, mais c'est quand même...
du blé qui est quand même beaucoup
gluténisé.
Ouais,
aussi.
C'est ça, exactement. Il y a eu beaucoup moins de changements qui a été fait au niveau de la structure, etc.
Ouais.
Donc du coup, il est beaucoup plus digeste. Et c'est vrai que le blé, c'est ce qu'on appelle le blé ancien. Même il y a le seigle aussi qui rentre dedans, l'épeautre, le petit épeautre. Moi, j'ai tendance à les conseiller vraiment de façon importante, de façon importante à remplacer en tout cas avec le blé moderne pour les personnes qui ont des problèmes aussi de digestion. Et vous allez voir que souvent, le blé ancien sera beaucoup plus digeste. Et surtout si vous prenez par exemple du pain au vrai levain.
Oui, c'est même conseillé. Hein. Si vous voyez boulangerie au levain, allez-y.
Ouais, c'est clair. Le pain, il est meilleur et en plus, il sera beaucoup plus digeste. Mais après, vous pouvez trouver même de la farine de poudre d'amande, farine de coco. Enfin, vous pouvez trouver plein de farines.
On a le choix.
On a le choix, mais le secret, c'est surtout de bien de faire un mélange. En fait, quand on fait de la farine, on fait des mélanges sans gluten.
Oui.
Parce que si on n'utilise qu'un type de farine sans gluten, par exemple, un gâteau juste à la farine de riz, ça aura tendance à pas trop avoir de texture,
exactement,
à moins tenir. Donc, il faut juste faire des mélanges. Ouais. Et avec des mélanges, ça marche super bien. Et la petite astuce, c'est de rajouter du psyllium parce que quand on cuisine sans gluten, le psyllium, ça permet de faire cet effet un petit peu gélatineux qu'on va trouver dans le gluten.
Ah, c'est
en fait.
Bon. Vous conseilleriez quelle dose de psyllium?
Alors, ça dépend des recettes, mais par exemple, j'ai fait un pain sans farine, avec juste des graines, et j'ai rajouté, je pourrais vous donner la recette, comme ça, on la mettra peut-être en podcast, mais c'est aux alentours de 50 grammes de psyllium, je crois, de
Super.
Mémoire.
Super. Alors, après la farine, on passe au sucre. À tout de suite sur Radio.